mandat aux États-Unis. C'était le journal de François Mazet.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Pour la première fois depuis l'élection présidentielle de 2016, les Américains étaient donc appelés hier aux urnes pour renouveler les membres du Congrès, et ces élections de mi-mandat étaient incontestablement un test pour Donald Trump. Le parti républicain a certes renforcé sa majorité au Sénat, le parti démocrate a repris le contrôle de la Chambre des représentants. Corentin Sélin est avec nous jusqu'à 10h heure de Paris, spécialiste des États-Unis et auteur du blog Il était une fois en Amérique. Avant de repasser au standard, d'écouter les questions des auditeurs, les analyses également des auditeurs, un état des lieux, à l'heure qu'il est 3h41 à Washington, quel est le rapport de force à la Chambre des représentants ?
Alors déjà, pour les résultats déjà tombés, définitifs, le concret, les démocrates ont un siège de plus que la majorité, donc ça c'est fait, c'est acquis. Maintenant, il reste environ une vingtaine de sièges à déterminer, et on comprend bien donc que c'est ça qui va faire la marge plus ou moins étroite. Les médias hésitent, donc on sera autour de 230, donc sur 435, pour les démocrates, avec plus ou moins 5, on va dire, voilà. Donc,
d'accord. Et au Sénat ?
Alors, au Sénat, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a encore des sièges de l'Ouest, l'Arizona, le Montana, qui ne sont pas encore déterminés. D'ores et déjà, les Républicains ont retrouvé déjà 51 sièges. Maintenant,
sur 100.
Tout ce qu'ils vont gagner en plus, c'est en quelque sorte du bonus. Donc voilà. Cependant, on doit noter, ça nuance un petit peu un bilan qui était vraiment très négatif pour les démocrates. Ils viennent enfin de prendre leur premier siège aux républicains dans le Nevada, la région de Las Vegas, où ils sont arrivés à défaire le sénateur sortant Hiller.
33 9 693 693 70. Bonjour Ismaël.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Abidjan, nous vous écoutons.
Oui, bonjour, Juan. Malgré des controversés, comment sur l'immigration, se dit toujours.
Alors attendez, Ismaël, votre voix est robotisée, donc déplacez-vous, on va essayer de vous retrouver évidemment dans un instant. Théadoum, bonjour.
Bonjour, Juan, et bonjour à tous les auditeurs de la Terre respective Radio France Internationale.
Merci de votre fidélité. Vous nous appelez de N'Djamena et vous avez une question concernant la politique internationale de Donald Trump.
Justement, le président américain Donald Trump a transféré à main derrière l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv en Jérusalem. Alors, j'aimerais savoir quel impact cette décision a eu sur l'électorat américain.
Ah, décision prise, rappelons-le, au mois de... C'était quand déjà, Corentin Sélin ? Au mois de mai, la décision de... Ou avril, de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. On disait à l'époque que c'était un signal adressé essentiellement à son électorat. Est-ce que vous pensez qu'hier, son électorat a effectivement pensé à cette décision prise il y a quelques mois, au moment de mettre le bulletin dans l'urne ?
Alors, il faudra là regarder évidemment, il faudra attendre un peu et qu'on regarde un peu dans les sondages sortis des urnes détaillés un peu sur les intentions des électeurs. Ce qui est certain, c'est que les républicains sont arrivés, on l'a vu, à limiter les dégâts dans les grandes sénatoriales du Sud, ils l'ont fait sans doute parce que, une fois encore, les évangéliques blancs, qui sont la principale base électorale de Donald Trump, se sont mobilisés très fort. Et ces évangéliques blancs étaient ceux pour qui le transfert de l'ambassade états-unienne à Jérusalem avait le plus de sens. Une fraction d'entre eux, ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, donc sont très favorables à ce transfert. Et donc, on peut supposer que ça a pu avoir un impact. Alors attention, cependant, la politique étrangère a vraiment eu, comme c'est souvent le cas pendant les midterms, un rôle absolument proche du néant dans les motivations des électeurs. Les candidats en ont très peu parlé. Donc oui, à la marge.
À la marge. Mais il y avait quand même une volonté chez Donald Trump de flatter donc cet électorat évangélique et aussi de flatter l'électeur juif américain ou pas ? On dit généralement que cet électeur-là vote essentiellement démocrate.
Oui. Alors non. Ça, il y a très peu d'espoir pour les républicains de ce point de vue-là. C'est vraiment là quelque chose qui était vraiment plutôt ciblé sur l'électorat évangélique.
On parlait de politique internationale. Sorry. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous avez un commentaire et vous êtes assez scandalisé par la politique menée depuis 2 ans par Donald Trump.
Ah oui, moi je pense réellement que le peuple américain devait sanctionner Donald Trump par rapport à sa politique internationale. C'est-à-dire, à l'avènement de Donald Trump, beaucoup étaient ceux qui avaient de l'espoir que c'était une façon de recentrer la politique américaine sur les priorités des États-Unis. Par contre, on s'est rendu compte que c'est un fou qu'on a mis à la tête d'une superpuissance.
Et qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Quelle décision prise par Donald Trump vous a scandalisé?
La décision de Donald Trump la plus délirante, c'est sa sortie brusque de l'accord iranien. Si on se rappelle les efforts qui ont été déployés par toute la communauté internationale pour obtenir cet accord avec l'Iran, on ne peut pas comprendre qu'un bon matin, Donald Trump, comme par enchantement, sort de cet accord.
Et en même temps, encore
sort de cet accord, il ne propose rien d'autre en lieu et place.
Corentin Célin, effectivement, il a décidé de sortir les États-Unis de cet accord conclu par Barack Obama 3 ans plus tôt, mais c'était une promesse électorale.
Oui, c'était une promesse électorale qui était tout à fait conforme à son programme. Il avait toujours dit que c'était le plus mauvais accord jamais signé, il reprochait en particulier à Barack Obama et à John Kerry de s'être fait rouler financièrement par les Iraniens. Et pour lui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans sa vision du monde. Jamais les États-Unis ne doivent être en situation de faiblesse. Jamais on ne doit les prendre pour des idiots. Et pour lui, les Iraniens avaient manœuvré les États-Unis. Et pour lui, ça c'était inacceptable. Alors évidemment, par rapport aux enjeux qui sont rappelés ici, ça peut paraître dérisoire, mais pour Trump, ça a de l'importance.
Ça a de l'importance, en tout cas, comme le disait notre auditeur Sori, il ne propose aucune alternative à cet accord. Il a rétabli les sanctions et point barre.
Alors, l'alternative est dans les sanctions, ouais. Puisque l'alternative, qu'est-ce que c'est ? Donald Trump a été très clair sur ce point. L'alternative, c'est par les sanctions, parvenir à mettre à genoux le régime iranien, le régime religieux iranien, et soit l'amener la corde au cou à venir renégocier un accord encore plus drastique, ou chez certains autour de Trump, provoquer un changement de régime à Téhéran pour arriver à un régime politique plus favorable aux intérêts états-uniens.
Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, vous répond en direct ce matin sur l'antenne de RFI. Bonjour Paulin.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes au Gabon.
Oui, je suis au Gabon, effectivement.
Très bien, quelles sont vos questions?
Bon, un nombre record de femmes se sont présentées au Congrès lors des élections de mi-mandat, tant du côté des démocrates avec 198 candidates et du côté républicain avec 59 candidates. Par ailleurs, un réel enthousiasme s'est fait ressentir chez les femmes pour aller voter.
Ouais.
Alors, comment expliquer cet engouement? Comment évolue l'électorat féminin depuis 2016?
Alors, Corentin Célin vous répond. D'abord un mot, Corentin, sur ce nombre record de femmes candidates au Congrès.
Oui, un nombre record de femmes. Beaucoup, parmi celles qui avaient été le plus présentées par les médias, ont été battues. Mais à l'échelle des représentants et des représentantes, il y a véritablement une véritable génération de femmes qui a été élue aujourd'hui. Comment l'expliquer? Tout simplement déjà par l'hostilité que Trump, candidat d'abord, puis président, a montré à l'égard des femmes. D'abord pendant sa campagne, avec des propos qu'on ne rappellera pas ici, absolument injurieux. Puis par diverses politiques, en particulier sur les droits reproductifs, qui montrent que Trump n'est pas l'ami des femmes. Par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi la frustration qu'ont eu beaucoup de femmes à voir Hillary Clinton échouer une seconde fois à briser ce plafond de verre de la présidence. Et il y a eu vraiment une forme d'envie générationnelle d'y aller, de s'investir en politique et pourquoi pas, dans quelques années, d'être enfin la première femme présidente des États-Unis.
La majorité des femmes candidates au Congrès appartenaient au camp démocrate.
Oui. Les femmes étaient beaucoup plus représentées chez les démocrates que chez les républicains. Et les femmes qui émergent, qui seront dans les prochains jours présentées par les médias, j'ai parlé de Gretchen Whitmer dans le Michigan, bien sûr Alexandra Ocasio-Cortez, la nouvelle représentante du district du Bronx à New York. Ces femmes sont d'abord et avant tout démocrates.
Et on peut dire, alors qu'il est, Corentin Célin, que l'électorat féminin s'est davantage mobilisé par rapport aux précédentes élections présidentielle et demi-mandat.
Alors ça, il faudra analyser. C'est encore trop tôt. Ce qui est intéressant quand même pour fournir une réponse précise, il y a un État qui a fourni de très très bons résultats pour les démocrates aujourd'hui, c'est la Virginie, où deux districts ont basculé, très important, en Virginie. Et ce sont des districts où les femmes blanches très diplômées qui votaient auparavant républicains ont apparemment basculé vers les démocrates. Mmh. Et donc, ce comportement des femmes blanches très diplômées apparemment a pu être un des facteurs de la bascule de la Chambre des représentants vers les démocrates.
Des questions maintenant sur les machines à voter. Alors ça, c'est un sujet qui intéresse énormément nos auditeurs sur le continent africain. Silver Hello, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous êtes à Lomé au Togo, nous vous écoutons.
Ok, merci. Et permettez-moi de dire merci à toute votre équipe au standard.
Merci.
J'ai entendu sur les récits que les machines à voter américaines n'étaient pas à 100% fiables. Et de ce fait, la majorité des États a donc introduit le papier. Or, 14 États américains persistent à son utilisation. D'où la question, Paul. Comment expliquer la controverse autour de ces machines?
Alors, Corentin Célin, les machines à voter, vulnérables?
Alors, sinon vulnérables, pour répondre à la question ici posée, le problème, c'est que par souci d'économie et par souci d'esprit pratique, beaucoup d'États avaient adopté des machines électroniques sans trace papier. On peut penser en particulier à un grand État comme la Pennsylvanie, hein, la région de Philadelphie, qui avait adopté durant les années 2000, qui avait généralisé ce mode d'élection, même si ça se fait dans chaque comté. Et évidemment, lorsqu'il y a eu cette élection si contestée de 2016, avec autant de doutes sur une éventuelle, par exemple, ingérence russe, on s'est dit, c'est quand même bien gênant de ne pas pouvoir avoir de traces papier du vote. Alors, certains États ont effectivement commencé à faire marche arrière et essayent au moins de se doter de machines avec une trace papier du vote électronique. D'autres reviennent à des modes de vote plus manuels. Mais évidemment, la difficulté, c'est que tous les États et tous les comtés qui s'étaient équipés à grands frais durant les années 2000 en particulier, ça fait un frais supplémentaire, un coût supplémentaire pour rechanger. Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a quand même une faille dans le processus électoral américain? Si ces machines sont vulnérables, on a même entendu des hackers dire « Mais attendez, nous pouvons les pirater à distance sans aucun problème ».
Oui, alors il faut faire attention aussi aux provocations et aux vantardises diverses et variées. Ce n'est pas aussi évident que cela. L'enjeu est plutôt de rassurer les électeurs états-uniens. Beaucoup ont perdu confiance dans le processus électoral après 2016 et ses soupçons d'ingérence russe. Et l'idée, c'est de dire « Bon, allez ». On va vous rassurer, on va revenir au bon vieux principe peut-être, sinon du vote papier, en tout cas d'avoir une trace papier, comme ça tout le monde sera rassuré, on restaurera la confiance dans la démocratie.
Alors je ne sais pas si la question d'Abdoul va nous rassurer. Bonjour Abdoul.
Bonjour Gian.
Nous vous écoutons.
Ok, bonjour Gian, bonjour à toute l'équipe RTS d'actualité, à vos millions d'auditeurs dans le monde.
Allez-y.
J'ai appris qu'une femme russe aurait été accusée d'interférence dans le système politique américain. Il aurait été soupçonné d'avoir financé une campagne de propagande sur les réseaux sociaux pour influencer les élections. Alors, quel impact a eu cette nouvelle différence russe sur les élections mandat?
Alors, on va revenir sur le cas de cette femme accusée donc d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour véhiculer des informations contre les États-Unis. Alors, il se trouve en plus qu'elle est russe. Y a-t-il eu volonté d'interférence, comme c'était le cas et comme ce fut le cas il y a 2 ans, selon vous, Corentin Célin?
Alors, oui. Et c'est pas moi qui le dis parce que ça n'aura pas grand intérêt, c'est le directeur du renseignement national, en particulier Dan Coats, qui l'a dit, qu'il a répété plusieurs fois cet été, sans doute aussi pour sonner l'alarme, hein. On se souvient qu'il y a eu cette réunion de tous les grands responsables de la sécurité intérieure à la Maison Blanche pour rassurer là encore le peuple américain et leur dire voilà, les choses sont sous contrôle. Et d'ailleurs, l'annonce par le ministère de la Justice de l'inculpation, que rappelait votre auditeur, de cette Russe, participait aussi de cette volonté de rassurer. Ça voulait dire, bon, cette fois-ci, on est sur le coup, on ne fera pas comme en 2016, on a mis nos process à jour et les Russes peuvent toujours venir. Mais évidemment, on sait qu'il y a eu des tentatives de puissances étrangères, la Russie, peut-être la Chine également, d'interférer, de s'ingérer dans le processus électoral. Mais de toute évidence, c'est du moins ce que soutient l'administration Trump et les principaux responsables de sécurité nationale de cette administration. Cette fois-ci, les menaces ont été déjouées ou ont même été, j'allais dire, tués dans l'œuf.
Ouais, Facebook, en tout cas, a annoncé avoir bloqué 30 comptes de son réseau et 85 comptes sur Instagram. De même pour Twitter, qui a également supprimé plusieurs milliers de comptes. On repasse au standard. Mamadou, bonjour.
Bonjour, monsieur Wan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Bonjour à tous les auditeurs et réfugiés. J'ai des questions à vous poser.
Oui.
La première, après les élections de mi-mandat, quelles promesses de campagne nous reste-t-il à tenir?
Alors, ah, ça c'est une bonne question, Corentin Célin, parmi les promesses de campagne.
Alors,
que reste-t-il ?
Alors, c'est tout le problème, parce que dans les dernières semaines de la campagne, Donald Trump a multiplié, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des promesses, en particulier en matière d'immigration, extrêmement difficiles à mettre en place. On pense en particulier, évidemment, à ce fameux décret présidentiel, décret exécutif, qu'il préparait pour suspendre le droit du sol. Il a laissé dire aussi qu'il en préparait un autre pour littéralement fermer la frontière sud des États-Unis et interdire l'asile, c'est-à-dire la demande d'asile.
Tout à fait, le droit d'asile.
Le droit d'asile. Mmh. Donc, si Donald Trump continue sur cet agenda-là, ça promet des sévères parties de manivelle entre lui et la Chambre démocrate. Mais on peut penser que ça, c'était plutôt des promesses, j'allais dire, de campagne, des promesses d'estrade pour galvaniser son électorat. Je crois que sinon, il y a deux grandes promesses qui restent à tenir par Trump. C'est d'avoir un nouveau système de santé, puisque pour l'instant, il n'a non seulement pas abrogé Obamacare, mais il n'a rien proposé de plus. Et deuxièmement, il lui faut aussi proposer, j'allais dire, une alternative à tout ce qu'il a supprimé chez Obama. C'est-à-dire que il a détricoté tout ce qu'avait fait Obama, bien, pendant les deux premières années. Maintenant, que propose-t-il à la place, en termes de régulation, etc. Et donc, voilà. Et peut-être aussi une nouvelle baisse d'impôts, parce que ça, il en avait parlé. Peut-être, il avait promis une nouvelle baisse d'impôts davantage ciblée sur les classes moyennes populaires.
Oui, puisque ce sont jusqu'à présent les entreprises qui ont bénéficié de la réduction des taxes fiscales.
Exactement.
Exactement. Il serait temps que l'Américain lambda puisse également lui aussi en profiter. Il nous reste 2 minutes, Corentin Célin. Quelles conséquences les résultats des élections, les résultats qui continuent d'ailleurs encore à tomber, peuvent avoir sur la présidentielle de 2020?
Alors, historiquement, je serais tenté de vous dire peu ou aucun. Pourquoi ? Je suis assez vieux maintenant pour me souvenir que...
Pas si vieux que ça, je le précise aux auditeurs.
Merci, c'est très gentil. Mais en 1982, Ronald Reagan. En 1994, encore plus, Bill Clinton. Et en 2010, Barack Obama avait connu des midterms de mauvaises pour le premier nommé à totalement désastreuses pour le dernier. Ouais. Chacun leur promettait un seul mandat. Tout chacun les trouvait au lendemain de ces midterms bons à prendre à la prochaine présidentielle. Et finalement, ils furent tous les trois réélus.
Donc finalement, perdre les élections de mi-mandat, ce n'est pas si grave que ça.
Non, ce n'est pas si grave. Surtout que là, c'est une défaite beaucoup moins conséquente, hein, puisque au Sénat, les intérêts républicains ont plutôt prospéré. Donc, il ne faut pas en tirer trop d'enseignement, surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que cette élection s'est passée dans un contexte économique, j'allais dire, optimal pour Donald Trump. Plein emploi, croissance, même si sur d'autres paramètres, la situation est beaucoup moins rose, mais ça ne restera pas forcément dans cette nature-là. Dans 2 ans, le contexte aura changé, on sera dans une nouvelle élection, il aura une nouvelle opposante. Donc, il ne faut pas tirer trop de leçons.
Concernant Donald Trump, et en deux mots, les démocrates, est-ce que ces élections leur ont donné une bouffée d'oxygène? Personne n'a véritablement émergé côté socialiste aux États-Unis.
Alors, il faut laisser du temps au temps. Simplement, les démocrates, aujourd'hui, disons qu'ils ont assuré le minimum syndical, cette fameuse majorité à la Chambre qui leur permet quand même d'avoir maintenant au moins un contrepoint institutionnel. Et je crois qu'ils avaient besoin de ça aussi pour se rassurer après le traumatisme de 2016.
Merci beaucoup, Corentin Célin, spécialiste des États-Unis et auteur du blog « Il était une fois en Amérique ». Demain, nous parlerons du désarmement au Mali. Est-il possible de désarmer les anciens combattants? Nous lancerons le débat, d'autant qu'hier, le coup d'envoi du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, a officiellement été lancé dans la ville de Gao. Dans 10 minutes, comme tous les matins, Caroline Paré, priorité santé. Bonjour Caroline.